Journal écrit en hiver d'Emmanuel Bove. Extrait. Texte dit par Nicolas Racca.
Janvier. Les jours passent. Une tristesse de plus en plus grande m'envahit. J'ai l'impression que chaque semaine est une semaine gagnée sur quelque malheur. Qu'il est pénible de vivre comme nous vivons, Madeleine et moi. Nous en sommes à un stade de conversation polie, par peur d'une scène terrible, moi par peur de la faire, Madeleine par peur d'avoir à se défendre. Elle a été ce matin faire des achats. Je suis resté seul à la maison. J'ai découvert alors que plus rien n'avait d'intérêt, que tout était étranger. Pour tâcher de retrouver un peu de notre intimité, je me suis rendu dans notre chambre. Ce qui, depuis mon mariage, a été le cadre de ma vie, m'est apparu brusquement comme indépendant de moi. Ce n'était pas moi qui couchais dans ce lit. Ce n'était pas moi qui me regardais dans cette glace. J'ai fui dans une pièce voisine. Le même isolement m'y attendait. Tout avait subitement vieilli. Tout semblait devoir être dispersé un jour. D'autres feraient les réparations nécessaires. Tout était désespérément immobile, lointain, hostile. L'on vit souvent des années sans savoir que l'on vit. Et brusquement, à un signe, à un événement, on s'aperçoit que l'on est mortel. Ce sont peut-être des avertissements du ciel destinés à rendre la mort moins horrible. Rien n'avait changé dans notre existence, et pourtant, un avertissement semblable émanait des choses. Il courait, d'une pièce à l'autre, un air qui disait à chaque instant que les années qui venaient de s'écouler étaient révolues, qu'une autre existence allait commencer, mais moins belle que la première. Dans cet appartement désert, j'avais l'impression que je venais de terminer une ascension et que, avant de redescendre, je me reposais sur le sommet. Car, il faut dire, malgré mon abattement, quelque chose d'une accalmie flottait autour de moi. Nous habitions encore là, Madeleine et moi, et l'espace où nous nous trouvions continuait de m'entourer. Et c'était que rien n'en signala l'évanouissement, que tout demeura comme pour l'éternité, qui m'apportait cette sérénité si douce et si semblable pourtant à celle qui précède l'orage. Quand Madeleine est rentrée, cette pénible impression s'est dissipée. Tout de suite, elle a mis de l'animation dans la maison. Elle est allée et venue. Elle a donné des ordres. Elle a demandé si on avait téléphoné. Car Madeleine, bien qu'elle se croie d'une sensibilité exceptionnelle, ne discerne pas ces choses impalpables. Elle n'ignore pas que le jour est proche où cet appartement ne sera plus qu'un souvenir, pourtant elle continue à vivre exactement comme dans le passé. Devrait-elle quitter le lendemain à tout jamais cette demeure, que son esprit serait immédiatement préoccupé du désir de ne rien oublier, de laisser tout en ordre. Et quand elle est rêveuse au milieu de cette maison en suspens, on devine que pas une seconde elle ne la regrettera, que la part de son imagination est tellement grande que ce qui succédera lui apparaît tellement beau que de vouloir qu'elle regrette quelque chose, ce serait vouloir qu'elle préfère une rose à un parterre de fleurs. Il est des gens qui aiment les objets qu'ils possèdent, même s'ils sont ordinaires. Un bibelot, un meuble, un livre, parce qu'ils ont été durant des années comme des compagnons, comme des spectateurs de leur vie, leur sont plus précieux que leur double, fussent-ils de grande valeur. Mais Madeleine ne s'attache pas aux choses pour de telles raisons. Ce qui compte à ses yeux, c'est la finesse, la rareté, le prix. Posséderait-elle depuis son enfance une bague qu'elle n'aurait jamais quittée et lui demanderait-on de l'échanger contre une autre, si cette autre était plus belle, elle n'hésiterait pas une seconde. Pas une seconde, elle ne songerait que la bague qui a touché sa chair des années est peut-être plus précieuse que l'autre. 11 janvier. Comme si je ne devais pas souffrir de la perte de Madeleine, je me suis mis à penser calmement à ma vie future. Ce n'était plus ma femme la cause de mes pensées, mais ce qu'il adviendrait de moi sans elle. Avant mon mariage, je n'étais fixé nulle part et, selon le hasard des rencontres, il m'arrivait d'entraîner des inconnus chez moi. Je ne pouvais m'empêcher de le faire et pourtant, après chacune de mes fredaines, j'étais en proie à une panique. Les médecins connaissent bien la phobie poussée à un degré extraordinaire d'une certaine maladie. Combien de fois leur ai-je entendu dire qu'ils recevaient la visite de gens bien portants qui, à cause d'un bobo insignifiant ou imaginaire, j'emploie leur langage, avaient complètement perdu la tête. Je ressemblais à ces poltrons. Durant toute la période d'incubation, et Dieu a voulu qu'elle soit longue, je tremblais d'avoir contracté cette maladie. Mais à peine étais-je hors de danger que c'était plus fort que moi de m'exposer à nouveau, et aussitôt après, la même peur horrible me saisissait. Le mariage, je dois le dire, m'apporta un profond soulagement en me délivrant de cette phobie. Je remerciais Dieu de m'avoir amené intact jusqu'à Madeleine, et durant toutes les années qui viennent de s'écouler, quand il m'arrivait de songer à mes frayeurs de jadis, je souriais à la pensée qu'elles étaient mortes, que plus jamais elles ne revivraient. Or, aujourd'hui, il m'est apparu que, si Madeleine me quittait, je courrais de nouveau les mêmes risques. J'allais me replonger dans ces affres oubliées. J'eus alors cette impression pénible que l'on ressent quand on croit avoir échappé à un mal et que, brusquement, on s'aperçoit qu'on est à sa merci, exactement comme avant. Sans plus songer à Madeleine, sans plus songer au chagrin que j'éprouverai quand elle ne sera plus là, je me suis mis à réfléchir sur ce qu'il me conviendrait de faire afin de ne plus me remettre dans les effroyables transes de jadis, cela avec froideur, comme si je n'aimais pas Madeleine. Je me suis juré de n'avoir de relations physiques qu'avec des femmes que je connaîtrais, dont je serais sûr, et de ne plus agir aussi légèrement que dans le passé. Et, pensée encore plus basse, il me vint à l'esprit que cette sorte de sacrifice, je pourrais m'en servir pour dire à Madeleine que, même si elle me quittait, je l'aimerais toujours au point de ne pouvoir revivre comme dans ma jeunesse. Elle m'aurait annoncé à ce moment qu'elle partait pour toujours, que, oubliant sur le champ les véritables raisons de ma continence, je lui eusse dit avec la sincérité la plus profonde que c'était pour elle que je voulais mortifier mes sens, que plus jamais une femme ne me tenterait puisque j'avais perdu celle que j'aimais. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de ne pas me laisser surprendre et de tracer déjà les grandes lignes de la vie que je mènerai lorsque Madeleine sera partie. Je me suis vu digne et solitaire. Je me suis demandé quelques instants si je garderais mes domestiques ou bien s'il ne valait pas mieux que j'en prisse qui n'ait point assisté à mon infortune. Et je me suis même composé une attitude. Je déjeunais seul. Je ne disais jamais un mot désagréable à la femme de chambre. Je sortais peu, lisais énormément et gardait toujours sur le visage une expression lointaine. Le plus étrange est que le règlement seul de cette attitude me remonta. J'avais l'idée qu'elle ne manquait pas de grandeur, et cette liberté, cette tristesse dans lesquelles je vivrais, je me pris à les embellir, à leur donner de la noblesse, de façon qu'elles s'opposassent avantageusement au présent. Quand je songe à cette heure que j'ai passée ainsi, je rougis de honte. Pourtant, on me la pardonnera, quand on saura le peu de cas que j'ai fait de ces divagations au moment où Madeleine est rentrée. En la regardant, mes plans ridicules se sont envolés et j'ai brusquement senti combien je l'aimais, combien était misérable ce que j'avais entrevu pour l'avenir à côté du bonheur qu'elle m'apportait. La solitude me fait horreur. J'ai besoin que quelqu'un soit toujours auprès de moi. J'ai besoin de me dévouer et que l'on m'excuse si ce que je vais dire peut paraître grotesque, mais j'ai pensé devant elle, si belle et si familière, que, si elle l'avait exigé, j'eusse été capable, pour lui prouver mon attachement, d'affronter les dangers dont j'ai parlé tout à l'heure. J'étais reconquis. J'avais même oublié mon égarement, car il n'est rien qui ne s'évanouisse plus vite de mon esprit que ces réflexions faites dans la solitude. 24 janvier. Lorsque le découragement me prend, il m'apparaît que rien ne compte sur cette terre, que les plus beaux sentiments comme les plus laids s'engloutissent de la même manière. Jadis, en de tels moments, je me ranimais cette parole « Un jour viendra où tout changera ». Elle me revint à l'esprit, mais au lieu de demeurer une promesse, il me sembla que, si je le voulais, elle pourrait se réaliser à la minute même. Pour être heureux, il faut qu'aujourd'hui me rende heureux, ai-je pensé. Il ne fallait plus rien remettre. Et en conséquence, il fallait que mon bonheur commençât à cet instant. Tant de fois j'ai été radieux quelques heures grâce à une résolution qu'à présent cela ne me suffit plus. J'ai beau faire les plus beaux serments, Quelque chose me manque. C'est pourquoi j'ai voulu que ce jour tant attendu fût aujourd'hui. Je suis si nerveux que je me réveille dès qu'il y a une apparence d'imprévu. Depuis longtemps, j'aurais pu tenir ce raisonnement, faire ce que j'ai fait aujourd'hui, tant c'est peu de choses de se dire qu'à partir d'une certaine heure, on est heureux. Pourtant, grâce à cette décision facile à prendre, j'ai tout à coup éprouvé un immense soulagement, comme si j'avais enfin trouvé la clé du bonheur. Aujourd'hui donc, j'allais être heureux. Jusqu'à présent, je n'avais fait qu'attendre, mais maintenant j'avais enfin compris qu'il ne fallait même pas attendre une minute, que si je voulais être heureux, il fallait que je le fusse à l'instant même. « je suis heureux », répétais-je plusieurs fois, mais quelque chose commença presque aussitôt à jeter le trouble dans mon esprit. C'était le sentiment de ce qu'était ma vie. J'avais beau me répéter que j'étais heureux, je songeais à mes innombrables soucis, à Madeleine, à ce monde qui m'agace et dont je suis incapable de me passer, à mon capital qui chaque année diminue, à ma santé, à tout ce que j'aurais voulu faire que je n'ai pas fait et que d'autres ont fait. Et, malgré mes efforts, se glissait en moi la pensée que le moment était mal choisi. Mais, poussant mes réflexions, je me persuadais que, pour être heureux, il fallait justement pouvoir l'être même accablé d'ennui. Plus tard, il n'y avait pas de raison pour que ceci disparusse, et, comme le paresseux trouve toujours une excuse à son inaction, si je ne réagissais pas à l'instant même, il se trouverait toujours quelque motif m'empêchant de le faire. Je me dis donc que, malgré tout, je devais être content de mon sort, sinon je souffrirais toute ma vie. Mais cette bonne résolution ne dura que la matinée. À peine un détail m'eut-il sollicité que je ne retrouvais pas la même conviction. Une sorte de colère m'envahit aussitôt, faite de dégoût. J'étais donc incapable de pénétrer dans la règle. J'étais donc à la merci du désordre de mon esprit. J'appelais alors je ne sais quelle catastrophe qui m'eût jeté dans la vie et m'eût fait oublier toutes mes pensées. Le feu, la ruine, la fortune, n'importe quoi, mais quelque chose qui me détourna de moi-même, tant ma faiblesse finissait par m'inspirer de l'horreur, eussent été les bienvenus. J'étais donc une girouette qu'un simple changement d'humeur affolait. Quand je prenais une décision avec toute ma lucidité, avec toutes mes forces et que j'étais convaincu de sa nécessité au point de tout bouleverser pour l'exécuter, il suffisait donc qu'une journée, que quelques heures s'écoulassent pour qu'elle fondît dans le néant. Non, c'était impossible. Cela ne pouvait plus continuer. Il fallait que je sache vouloir. Il en allait de moi-même, de mon bonheur, de mon avenir. Comme je souffrais au moment où, ma volonté partie, je voulais quand même vouloir. Je traversais alors des minutes d'abattement terribles. J'avais le sentiment d'être une misérable loque, et, ce qu'il y a d'effrayant, ce sentiment, au lieu de me stimuler, m'accablait encore davantage. J'ai observé que c'est justement à ces moments de désespoir que le monde trouve la force de réagir. Chez moi, c'est le contraire qui se produit. Je sens que je m'enlise. Tout ce que j'ai désiré m'apparaît comme des folies. Je n'ai plus le courage de bouger, encore moins de me défendre. Je deviens une misérable épave. Je me trouvais dans cet état d'esprit, si l'on peut dire, lorsque Madeleine est entrée dans mon bureau. Un sombre dégoût de la vie m'abêtissait. Je me sentais sans le moindre intérêt pour personne. Un infirme m'eût pris par la main pour me conduire dans une mare vaseuse et grouillante de crapauds que je n'eusse pas résisté. Je n'étais même pas capable de parler, de me servir de mes mains, de toucher à mon visage. Et pourtant, il y avait une heure à peine, j'avais marché de long en large, débordant de vie et d'allégresse à la pensée qu'enfin j'avais découvert le moyen d'être heureux, et cela sans qu'un doute que toutes mes expériences passées eussent dû faire germer, vint m'effleurer. Ça avait été vraiment comme si, à cette minute, quelque chose avait commencé, quelque chose que rien au monde ne pourrait détruire. Et maintenant, devant Madeleine, tout cela était envolé. Il ne restait rien que l'homme habituel que je suis, comme si toutes ces débauches de volonté n'avaient jamais existé. Je ne savais plus que dire. J'étais étonné que Madeleine ne s'aperçût de rien, tant j'avais exulté un instant auparavant. Qu'elle ne soupçonnât même pas mes tourments, que je demeurasse pour elle le même homme, aussi bien lorsque je me haïssais que lorsque je m'admirais, me fit entrevoir que celui que j'étais à ses yeux ne méritait vraiment pas qu'on l'aimât. L'être qu'elle se représentait était devant moi, et ce fut à lui que je pensais quand je lui répondis, alors qu'elle venait de m'apprendre qu'elle sortait, « Si tu veux, tu peux ne pas rentrer, ne plus jamais rentrer. Si tu veux, tu es libre. Libre. » À ces mots, Madeleine eut un visage plein de stupéfaction. « Mais qu'est-ce que tu as ?»«
Je n'ai rien. Je tiens simplement à te dire que si tu désires ta liberté, tu peux la prendre. »
En prononçant ces paroles, j'avais le sentiment de me battre moi-même, de me venger de moi-même, de m'écraser sous le poids du dégoût que je m'inspirais. Et en même temps, chose étrange, il m'apparaissait confusément que mon attitude ne manquait pas de noblesse.
« Est-ce que tu parles sérieusement ?» me demanda Madeleine.
Cette question me troubla un instant. Il y avait donc deux façons de parler, sérieusement ou pas. Et j'avais choisi la façon sérieuse. D'un seul coup, tout ce que je venais de dire me parut diminuer sans que je pusse m'expliquer pourquoi. Comme dans un rêve où d'une réponse dépend tout notre sort, je devins prudent sans raison. Durant quelques secondes, je gardai le silence. Puis je dis « Le plus sérieusement du monde ».«
Vraiment ? Tu parles sérieusement ?»
me demanda-t-elle encore.
« Je parle sérieusement, » continuai-je,
mais avec subitement cette appréhension que nous avons quand un interlocuteur nous demande « C'est vrai ? C'est bien vrai ? Vous prétendez que c'est vrai ? Une dernière fois, vous affirmez que c'est vrai ?» et que nous répondons toujours oui en craignant vaguement on ne sait quelles conséquences à toutes ces affirmations. Brusquement, je sentis que de simplement répondre ne suffisait plus, qu'ainsi je semblais avoir agi par caprice, et j'ajoutai «
« Je te répète, ma chère Madeleine, que, si tu le veux, tu es libre. Je sens bien que tu n'es pas heureuse avec moi, que ma présence t'est insupportable. Je sais bien que tu es faite pour autre chose. Maintenant, j'en ai pris mon parti. Aussi ne veux-je plus faire obstacle à ton bonheur. Je tiens à te dire que tu es libre et que, si tu veux disposer de ta destinée à ton gré, je ne t'en empêcherai pas. »
J'avais la conviction que Madeleine se réjouissait de m'entendre et, pourtant, je continuais à parler. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir que mes paroles la plongeaient dans une grande tristesse. Elle, qui, jusqu'à ce jour, m'avait paru ne désirer qu'une chose, reprendre sa liberté, à présent elle la redoutait. À mesure que j'insistais, il m'arrive continuellement au cours d'une discussion de me dédire, si bien qu'à la fin j'affirme des choses que je n'avais qu'insinuées, je le faisais avec plus et plus d'autorité. Alors que j'avais commencé sur un ton suppliant, en voyant son trouble, j'en étais venu à lui ordonner de partir, à lui dire que maintenant ma décision était prise et qu'il était impossible de revenir en arrière. Je faisais semblant de ne pas remarquer l'effet que mes paroles produisaient. Madeleine ne me demandait plus si je parlais sérieusement. À son expression, je compris qu'elle avait peur de l'inconnu, qu'elle souffrait terriblement à la pensée que je ne voulais plus d'elle et qu'elle allait être seule au monde. Je continuais pourtant sans le moindre remords. Cela me soulageait qu'elle souffrît à cause de moi. En la regardant, je devinais à quel point elle était faible. Et moi, sans pitié, je continuais à lui répéter qu'il fallait que nous nous séparions. Comme je parlais, Madeleine ne répondait pas, ni ne m'entendait, semblait-il. Pourtant, petit à petit, ses traits se contractèrent. Je lisais sur son visage tout ce qu'elle pensait. Elle pensait, la malheureuse, avec l'effroi d'un enfant abandonné en pleine nuit, que plus personne ne la protégerait, que de toutes parts les hommes s'avanceraient vers elle, l'obligeant à s'enfuir, et elle se voyait à leur merci, à l'instant où, épuisée, elle tomberait. Je sentis qu'elle s'en remettait à moi avec désespoir. Ses yeux se faisaient suppliants. Elle est tellement délicate, tellement fine, que, à la pensée d'être mêlée à ce qu'elle ne connaît pas, à la foule, elle perd la tête. Combien l'ai-je entendu dire de fois le dégoût qu'elle a des inconnus, fussent-ils même, comme il arrivait souvent, beaux et jeunes. Pour Madeleine, qui n'a pas d'amis, me perdre ce serait perdre tout ce qui la rattache à la vie. Cruellement, je continuais pourtant à lui enjoindre de me quitter, de refaire sa vie, avec cette confiance que nous avons quand nous savons qu'on ne peut nous prendre au mot. Il est toujours facile, après coup, quand on se juge, de se dire « j'aurais dû faire telle chose ». Mais dans la réalité, sans éloignement, on ne voit rien. J'ai souvent observé cela au théâtre. Dans une scène où un homme agissait avec brutalité, je me révoltais avec sincérité. Et pourtant, à présent, j'étais peut-être plus coupable encore que ce personnage, car en même temps que j'étais dur, je pensais justement que je ne l'eusse pas été à la place d'un autre. J'avais quand même une excuse que j'étais seul à connaître, excuse que les spectateurs ne connaissent pas, excuse qui me permettait d'être encore 100 fois plus cruel. Cette excuse, c'était que je savais que, devant une douleur vraiment grande, ma méchanceté disparaîtrait. J'avais le sentiment que je pourrais, d'un instant à l'autre, cesser de faire souffrir Madeleine. Mais aujourd'hui, était-ce à cause du dégoût profond, immense que j'avais de moi-même, il me semblait toujours que le moment n'était pas arrivé, que Madeleine ne souffrait pas assez, qu'il serait temps dans quelques minutes de changer. Pour la première fois, j'eus pourtant peur, au fond de moi-même, d'avoir dépassé la mesure. Cela ne m'est jamais arrivé. J'imagine comme cela doit être terrible pour un homme qui martyrise une femme avec cette arrière-pensée si, n'ayant pas senti l'instant où il doit s'arrêter, sa femme, brusquement, se jette par une fenêtre, se tue. Il la faisait souffrir avec la certitude qu'il cesserait au bon moment, qu'il se ferait pardonner, qu'il la rendrait heureuse par la suite, et cela, à cause d'une erreur, il ne pourra plus jamais le faire. Toute sa vie, il portera le remords d'avoir été la cause de la mort de l'être qu'il aimait le plus au monde. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi, le moment ne me semblait pas encore venu. Madeleine avait beau être atterrée, effrayée à l'idée qu'elle me perdrait, je n'éprouvais pas le besoin de la rassurer. Au contraire, je continuais à l'accabler, allant jusqu'à dire que tout était fini entre nous, que j'avais assez supporté de choses, que maintenant je ne reviendrai jamais sur ma parole, que je préférerais mourir. Brusquement, Madeleine éclata en sanglots. Une seconde, j'eus l'impression que l'excuse que je me donnais avait cessé de jouer, qu'il me fallait changer, comme je le faisais d'habitude. Mais quelque chose en moi de méchant m'en empêcha. Il m'apparut que tout cela n'était pas suffisant, qu'il fallait que je continuasse, d'autant plus que les fenêtres étaient fermées, que j'étais près d'elle et que je pouvais en un instant la saisir dans mes bras. Madeleine pleurait, mais ne me demandait pas pardon. Cette fierté me mit hors de moi. Je continuerai, pensais-je, jusqu'à ce que tu me supplies de te garder. À ce moment, Madeleine, entre deux sanglots, me regarda avec des yeux si humbles que je sentis qu'elle m'adjurait de la laisser en paix. Mais cela ne m'émut point. J'eus alors nettement l'impression que, quoi qu'il pût arriver, je ne pourrais pas m'arrêter. Tout ce qu'il peut y avoir de laid au fond de mon âme était le maître. Dans ma colère contre moi-même, j'éprouvais sans doute à agir ainsi une sorte de réconfort. Je voulais aller jusqu'au bout, quitte à tout perdre, pour voir ce qui se produirait. Ma volonté, à ce moment, me poussait vers ce qu'il y a de mauvais en moi. De même que, tout à l'heure, elle m'avait élevé jusqu'au bonheur, à présent, elle me maintenait dans la colère. J'avais trop abdiqué. Je ne voulais plus le faire. J'éprouvais une satisfaction profonde à m'abandonner ainsi à mes instincts. Si j'avais la force de persévérer, de vouloir sans faiblir une seule chose, fût-elle laide, il me semblait qu'une nouvelle vie allait commencer, que j'allais sortir de moi-même et devenir un autre.
C'était Journal écrit en hiver d'Emmanuel Bove. Extrait. Texte dit par Nicolas Racca. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Pierre Henry, Cécile Lafont, Bernard Laniel, Claire Levasseur, Étienne Vallès. Journal écrit en hiver d'Emmanuel Bove est publié aux éditions Flammarion.